France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Nicolas Chauvin, la mort au bout du terrain. Le 9 décembre 2018 à Bordeaux, ce rugbyman professionnel est titularisé pour la première fois avec l'équipe espoir du Stade français, l'un des clubs phares en France. Mais ce qui devait être une fête se transforme en cauchemar. Au bout de 5 minutes, le jeune homme de 18 ans est victime d'un double plaquage, d'une extrême violence. Il s'écroule, inconscient. 3 jours plus tard, sa famille annonce son décès. Le monde du rugby est en deuil. Il s'agit du 3e mort sur un terrain en moins d'un an. Et pourtant, personne n'envisage de punir le responsable de la mort de Nicolas. Personne, sauf son père, Philippe Chauvin, qui s'engage dans le combat de sa vie. Isolé, perçu comme un caillou dans la chaussure du monde de l'Ovalie, il porte plainte devant la justice et harcèle les instances dirigeantes pour qu'elles assument leurs responsabilités en vain. En tout cas, jusqu'à présent. Notre invité aujourd'hui, Philippe Chauvin, justement, le père de Nicolas. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
Décembre 2018, c'est un dimanche. Depuis quelques semaines, la France est secouée par un mouvement social inédit, les Gilets jaunes. La veille, la répression était terrible. Près de 2000 interpellations dans tout le pays, plus de 250 blessés, des yeux et des mains arrachés. Chez les Chauvins, on est loin de ces soubresauts politiques. Malgré l'ambiance maussade, dans le ciel comme dans l'actualité, c'est une journée joyeuse qui s'annonce. Pensez donc, Antoine, l'aîné, fête ses 20 ans. Tout le monde sera là à midi pour célébrer l'événement. Enfin, presque tout le monde. Il y aura Antoine, bien sûr, son frère, Thomas, âgé de 16 ans, c'est le Benjamin, et les deux parents, évidemment, Philippe et Caroline. Mais il manquera l'autre frangin, Nicolas, le cadet. Il se trouve que le jeune homme de 18 ans a une excuse en béton. Il joue un de Paris à Bordeaux dans l'après-midi. Et quel match ! Il s'agit de sa première titularisation avec l'équipe espoir du Stade français, un club qu'il a rejoint durant l'été. Bref, la vie est belle pour Nicolas. En juillet, il a obtenu son bac, mention assez bien. Dans la foulée, il a été admis en STAPS, la fac des sportifs. Et le voilà aux portes d'une carrière de rugbyman. Les espoirs, c'est l'antichambre des professionnels. Et le Stade français, c'est une place forte du rugby français. Un de ses clubs les plus anciens. Il a été fondé en 1883 dans le 16e arrondissement de Paris. Le rugby à 15, le vrai, diront les puristes, n'existait que depuis quelques années seulement. Mais c'est aussi et surtout l'un des clubs les plus titrés. 14 fois champion de France, seul le Stade Toulousain fait mieux. D'ailleurs, le dernier sacre est encore dans toutes les mémoires. C'était il y a 3 ans, en 2015, face à Clermont. Mathieu Lartaud et Fabien Galthié assurent les commentaires pour France 2.
Regardez le chronomètre, il reste 15 secondes à jouer. 12-10 maintenant pour Mornestein pour passer ce coup de pied. C'est parti pour l'ouvreur du Stade français. Ça s'élève. Et ça passe entre les poteaux. Stade français 12, Clermont 6. Est-ce qu'il reste une petite seconde pour jouer le renvoi? Non, c'est terminé. Monsieur Geyser siffle la fin. Et le Stade français succède à Toulon. Et c'est terrible pour Clermont.
Ah, c'est la folie, Mathieu, sur le terrain.
Ah oui, mais pour Clermont, que c'est dur. Deuxième finale de la saison perdue après celle de la Coupe d'Europe. Et 11e défaite en 12 finales disputées de championnat. Le Stade français l'a fait, le Stade français que personne n'attendait. Le Stade français qui n'avait plus joué de phase finale depuis 6 ans, qui n'avait plus remporté de titre depuis 2008.
En 2015, Nicolas n'est qu'un ado qui ne pense pas encore à faire du rugby son métier. 3 ans plus tard, le rêve est devenu accessible. Durant l'hiver précédent, les recruteurs des Stades français le repèrent alors qu'il enchaîne les bonnes performances avec son équipe de toujours, l'Union des Bords-de-Marne. Et en juin, il lui propose de rejoindre l'équipe espoir. C'est un 3e ligne athlétique et mobile, un profil recherché dans le rugby moderne. Mais les débuts sont difficiles. C'est qu'il faut s'adapter au plus haut niveau. Et Nicolas n'a que 18 ans. Certains de ses partenaires en ont 22, 23. Lui pèse 95 kilos, certains dépassent les 130. Pas simple de faire son trou. Mais bon an, mal an, il grappille du temps de jeu au fil des semaines. 15 minutes, 20 minutes. Bon, certes, c'est un peu frustrant, mais ce 9 décembre, enfin, il va rentrer sur le terrain dès le début du match avec le numéro 6 dans le dos. Et rien ne vaut l'adrénaline du coup d'envoi. Les regards durs lancés à l'adversaire à la sortie des vestiaires, la pression du public dans les tribunes, le coup de sifflet de l'arbitre et le ballon qui s'envole. Quel kiff! Et il fait encore nuit ce 9 décembre quand Philippe accompagne son fils à la gare Montparnasse. D'habitude, cet ancien joueur de rugby amateur ne manque aucun match de son fils. D'ailleurs, il le conseille très souvent. La veille, ils ont regardé ensemble des vidéos de l'adversaire du jour, l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB, une équipe redoutable. La preuve, elle est en tête du championnat. Mais cette fois, le paternel doit faire exception. Il ne peut tout de même pas manquer l'anniversaire de son autre fils, Antoine. À 7h, il laisse donc Nicolas sur le quai. Et il n'est pas inquiet. Certes, il est bien placé, lui qui a tâté du ballon ovale pendant 25 ans, pour savoir que le rugby est un sport de contact parfois violent. Il se souvient de ces images terribles qui remontent à quelques mois. Samuel Ezeala, un jeune joueur de Clermont, son club de cœur, à terre, comme électrocuté après un choc d'une violence inouïe avec Virimi Vakatawa, l'une des stars du Racing 92 et de l'équipe de France. Heureusement, le trois-quarts s'en relèvera et retrouvera les terrains après plusieurs mois de repos forcé. Mais d'autres, et Philippe le sait, n'ont pas eu droit à une seconde chance. En mai, Adrien Descrul, un junior du RC Billum dans le Puy-de-Dôme, s'éteint dans son lit au lendemain d'un match. Traumatisme crânien, il avait 17 ans. En août, c'est un jeune homme de 21 ans, Louis Fachfrowski, un espoir comme Nicolas, qui s'effondre dans le vestiaire de son club, Aurillac, après un choc violent sur le terrain, comme l'explique France 3 Occitanie.
Louis Fachfrowski avait 21 ans et jouait trois quarts à Aurillac. À la 60e minute d'un match de préparation vendredi contre Rodez, il subit un plaquage appuyé. Les soigneurs se précipitent, le remettent sur pied, il sort seul du terrain, plaisante avec d'autres joueurs. Mais à l'intérieur du vestiaire, il perd à nouveau connaissance. Malgré des massages cardiaques à 20h, le médecin du SAMU annonce son décès.
C'est vraiment quelque chose auquel nous ne sommes pas préparés, ni les uns ni les autres. Et aujourd'hui, notre pensée, c'est une grande tristesse. Et plus que ça, on est très, très, très triste.
Malgré tout, Philippe est confiant. La veille, il a dit à Nicolas qu'il avait de la chance. Les trois arbitres du match sont des arbitres officiels. L'un d'eux, l'arbitre principal, Adrien Marbot, deviendra même professionnel quelques années plus tard. Alors forcément, il sera plus vigilant en cas de mauvais geste, pense Philippe. À midi, tout le monde se retrouve dans la joie et la bonne humeur dans la maison familiale à Champigny-sur-Marne. En milieu d'après-midi, le couple part en quête d'un sapin de Noël. Ils attendent de payer à la caisse quand Philippe reçoit un appel. Il est un peu plus de 16h30. C'est un numéro inconnu qui s'affiche. Au bout du fil, c'est le manager de l'équipe Espoir. Il y a du bruit dans le magasin, Philippe n'entend pas bien. Il va le rappeler. Il croit à une blessure, ou peut-être à une commotion cérébrale. Enfin, rien de grave, se persuade-t-il. Mais quand il rappelle le manager quelques minutes plus tard, il déchante. Son fils est inconscient. Il est à l'hôpital. Philippe n'en sait pas plus. Son interlocuteur reste évasif à l'autre bout du fil. Comme il le raconte dans une enquête vidéo du Parisien, c'est quand il appelle l'hôpital Pellegrin à Bordeaux qu'il comprend que sa vie vient de basculer et que celle de Nicolas ne tient plus qu'à un fil.
Et là, à l'hôpital, ils sont beaucoup plus clairs. Ils me disent oui, on vient de l'admettre en réanimation et il passe au bloc opératoire pour une fracture des vertèbres. Et on apprend aussi qu'il a fait un arrêt cardiaque. Et ça, effectivement, c'est plus clair pour le coup. Donc forcément, à la question, s'il faut venir maintenant, la réponse, elle est oui, c'est important que vous veniez. Et c'est là où on réalise que Nicolas est dans une très, très, très mauvaise posture.
Immédiatement, Philippe laisse Caroline avec leurs deux garçons et file à la gare. Il arrive à Bordeaux à 21h. Quelques minutes plus tard, il découvre son fils allongé, inconscient. Il ne s'est pas réveillé. Et le corps médical est inquiet. Le diagnostic est sévère. Arrachement de la seconde vertèbre cervicale ayant entraîné une lésion de la moelle épinière. Les médecins n'ont pas attendu pour l'emmener au bloc opératoire. Et maintenant, c'est un combat au fond de lui-même que mène le jeune rugbyman pour survivre. Pour l'heure, Philippe ne veut pas visionner les images du choc. Dans les couloirs de l'hôpital, le lendemain, des membres du staff du Stade français lui racontent les circonstances. Il parle d'un double plaquage particulièrement violent, évoque un potentiel hors-jeu. Cela lui suffit. Le moment de se confronter à cette flambée de brutalité viendra bien assez tôt. Pascal Papet, un ancien international qui dirige le centre de formation du Stade français, et Xavier Perron, l'entraîneur des Espoirs, l'assurent de leur soutien total, y compris s'il veut porter l'affaire en justice. Mais Philippe n'en est pas là pour l'instant. Non, toute son attention est tournée vers son fils. Oh, il ne se fait pas d'illusions, les médecins ne lui ont donné que peu d'espoir. Le lendemain, Caroline, Antoine et Thomas le rejoignent. La famille s'apprête à faire son deuil. Deux jours plus tard, un rendez-vous est fixé avec l'équipe médicale. Il est 14h30 en ce mercredi 12 décembre et le diagnostic est sans appel. La mort cérébrale de Nicolas est inéluctable. Décision est prise de ne pas s'acharner. Le décès du jeune homme sera prononcé vers 17h. Son père, sa mère et ses deux frères ont 2 heures devant eux pour lui faire ses adieux. Quand la nouvelle tombe, le monde du rugby est sous le choc et les réactions se multiplient. En moins d'un an, 3 gamins sont morts en jouant au rugby. Ce n'est plus acceptable. Un match, ce n'est pas l'affrontement de 2 gladiateurs dont l'un crève à la fin, rappelle Jérôme Filol, l'ancien demi de mêlée du Stade français. Sur France Inter, le neurochirurgien Jean Chazal ne mâche pas ses mots, lui non plus.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Personne ne peut conclure autre chose qu'un accident lié à un sport d'une extrême violence et qui tue. Là, ce malheureux a été plaqué, si j'ai bien compris, par 2 joueurs qui lui sont tombés dessus en pleine vitesse. Alors c'est autorisé, donc voilà, ils le mettent en application, mais c'est pas ça le rugby. Donc je crois que, par exemple, il faut se poser la question du plaquage à 2 dès maintenant et très vite. Peut-être l'interdire. Et puis, il faut réinstaller des cellules de crise indépendantes qui éduquent ou rééduquent les jeunes joueurs en leur disant « Tu vas pas sur le terrain pour massacrer ton adversaire, tu y vas pour l'éviter, pour mener un combat stratégique. » Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir les jeux du cirque où il y a tous les joueurs qui sortent sur des civières. C'est quand même nouveau, ça. Certains anciens rugbyman le disent, osent le dire quand même. C'est un sport qui tue, c'est insupportable.
Quelques mois plus tôt, après le terrible choc entre Ezeala et Vakatawa, Jean Chazal avait déjà tiré la sonnette d'alarme. « La prochaine fois, il y aura un mort », avait-il alerté. Il ne croyait pas si bien dire. Depuis, il en a eu 3. Mais il prêchait dans le désert. Pourtant, les voyants étaient rouges depuis longtemps. Sur la chaîne L'Équipe, le 13 décembre, le journaliste Olivier Ménard s'inquiète, chiffre à l'appui, de l'évolution de ce sport depuis qu'il est devenu professionnel il y a 20 années.
L'évolution des gabarits entre 1987, c'est la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, puis 2011, la deuxième Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Les 3/4 sont plus grands en moyenne de 7 cm et plus lourds de plus de 20 kg. Le jeu, lui aussi, a profondément évolué. Alors, il y a quelques chiffres comme ça, je ne vais pas vous arroser avec beaucoup de statistiques, mais temps de jeu effectif. 21 minutes dans un match avant, ça faisait 80 minutes. Le temps de jeu effectif, 21 minutes. 37 minutes désormais, enfin en 2011. Temps moyen d'inaction, 13 secondes, 42 secondes. Nombre de plaquages dans un match, il y avait 160 plaquages en moyenne en 1987, il y en a 282 en moyenne en 2011. Puis le nombre de mêlées, c'est là où on voit vraiment l'évolution de ce sport. Il y avait 44 mêlées en moyenne en 1987 et simplement 14. C'est le rugby, c'est le même nom, c'est plus le même sport.
Et le monde du rugby continue de ne pas vouloir regarder la réalité en face. Certes, on annonce des réformes. Faire jouer des gamins de 18 ans avec des hommes de 23 ans, ça n'est plus possible. Il faut changer ça. Il faut interdire les doubles plaquages également. Trop dangereux. C'est ce que défend Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Ancien international, ancien sélectionneur et même ancien ministre. C'est un homme d'influence. Mais les comportements violents qui se multiplient week-end après week-end, chez les pros comme chez les amateurs, ça on n'en parle pas. Ou si peu. On évoque la fatalité, l'accident bête. On rappelle que le rugby est un sport de combat. Que peut-on y faire, hein ? C'est le jeu, entend-on souvent. Mais Laporte rectifie, le rugby n'est pas si dangereux. 2 fois moins qu'il y a 10 ans et bien moins que d'autres disciplines. Le cyclisme, par exemple. Alors oui, on s'émeut, on pleure, on se serre les coudes dans l'adversité. Le rugby est une famille, n'est-ce pas ? Dès l'annonce du décès de Nicolas, la fédération appelle à un hommage national sur tous les terrains. Des anciens joueurs de renom appellent Philippe pour lui présenter leurs condoléances. Le vendredi qui suit, un hommage est rendu à Nicolas au stade Jean-Bouin, à l'occasion d'un match de Coupe d'Europe opposant le stade français aux Gallois des Ospreys. Ses parents sont là, toute la famille est réunie. À l'échauffement, les joueurs portent un t-shirt avec la photo de Nicolas sur le torse, au son du célèbre morceau des Scorpions, Wind of Change. Inoubliable. Nicolas l'écoutait souvent. Avec son pote Arnaud, ils aimaient le siffler ensemble. Malgré le froid glacial, c'est une belle cérémonie. Et d'honneur, bouquet de fleurs et la désormais traditionnelle minute d'applaudissement, alors que les joueurs des deux équipes forment un cercle au centre du terrain.
Ses frères Antoine et Damoc, et tous leurs proches, avec cette minute d'applaudissements. Mercredi
suivant, le 19 décembre, un ultime adieu public est organisé à l'église Notre-Dame d'Auteuil, à Paris, à quelques encablures seulement du stade Jean-Bouin. Pour porter le cercueil, les frères et le père de Nicolas d'un côté, trois de ses coéquipiers de l'autre. Après cette douloureuse épreuve, Philippe peut enfin consentir à visionner les images des derniers moments de vie de Nicolas et se rendre compte que non, la mort de son fils n'était pas inéluctable, qu'elle n'est pas le fruit de la fatalité qu'elle aurait pu et dû être évitée.
How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says, kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so unkind. Hanging around on the edge of the world. Finally no one around. Oh, would you help me?
Thank you.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Nicolas Chauvin, la mort sur le terrain.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Voilà près de 2 semaines que Nicolas a perdu connaissance sur le terrain de Bègles. Alors il est temps pour son père, Philippe, d'ouvrir son ordinateur et de regarder les images du match qui a fait basculer la vie de son fils. Ce n'est pas long, 5 petites minutes. Et quelle entame de Nicolas! Un premier plaquage efficace, puis un essai en bout de ligne après quelques secondes de jeu seulement. Nicolas a fait parler sa puissance, son expérience également. Il n'a que 18 ans, mais 11 ans de rugby derrière lui. Et il est de toutes les phases de jeu, jusqu'à cette terrible 5e minute. Paul-Antoine Leclerc, un journaliste du Parisien qui a mené l'enquête, commente les images filmées depuis les tribunes.
Le Stade français est sous pression dans son camp. La défense bordelaise est très agressive. Et Nicolas reçoit le ballon.
Les images sont terrifiantes. Le son aussi. Au moment du choc, on entend le public applaudir et crier. D'admiration pour certains, de stupeur pour d'autres, tant la charge a été violente, juste avant que l'arbitre ne siffle l'arrêt de jeu. Nicolas vient d'être plaqué par 2 joueurs simultanément. Enfin, plutôt que de plaquage, il faudrait parler d'une véritable agression. Il est à l'arrêt quand il reçoit le ballon. 2 Bordelais, le 5 et le 7, leur numéro de maillot. Les gros, comme on dit dans le jargon, arrivent eux à pleine vitesse. Et Nicolas n'a que quelques microsecondes pour se préparer au choc. Le journaliste Paul-Antoine Leclerc poursuit.
Si on dissèque l'action, les 2 plaqueurs, le 5 ici et le 7 avec son casque rouge, arrivent sur Nicolas après une course d'environ 15 mètres. Les 2 plaquages sont quasi simultanés. Le premier, c'est le 7, caché derrière son coéquipier ici. Il se baisse et plaque au niveau des épaules de Nicolas. Le choc est d'une violence inouïe, tellement qu'on le voit agiter son épaule, électrisé par la puissance du plaquage. Le 2e plaqueur, le 5, arrive lui avec le buste droit. Il n'enserre pas Nicolas avec les 2 bras et ne maîtrise pas son geste. La preuve, il atterrit les 2 mains au sol, propulsé par sa vitesse.
Sur les images révélées par le Parisien, on voit Nicolas rester à terre, inerte, pendant que les Bordelais se congratulent. L'arbitre comprend très vite que le joueur était plus mal. Alors les médecins accourent, et en attendant les pompiers qui arriveront au bout de 40 minutes, il pratique un massage cardiaque. Les joueurs des 2 côtés commencent à s'inquiéter. Ils voient bien que le visage de Nicolas devient bleu. L'heure est grave. Les spectateurs également craignent le pire. Il a ramassé, là, ça fait du bruit, peut-on entendre dans la vidéo. Quelques minutes plus tard, le speaker fait une annonce.
Bon, le match, vous comprenez bien, est arrêté. Pour la protection du joueur, on attend normalement les secours.
Ces images, Philippe se les passe et se les repasse, à vitesse réelle, puis au ralenti, seconde après seconde. Dès le début du match, il constate que les Bordelais sont très agressifs. Ils sont souvent hors-jeu et ils écopent même d'une pénalité pour un plaquage haut qui aurait bien mérité un carton jaune. Mais avec ce double plaquage, qui a plongé son fils dans le coma, on franchit le seuil de l'inacceptable. Et qu'on ne vienne pas parler à Philippe d'un accident. Selon lui, c'est clair, les 2 joueurs de Bordeaux-Bègles ne sont pas venus avec la seule intention de stopper leur adversaire. Non, ils voulaient lui faire mal. Alors pour Philippe, de 2 choses l'une. Soit le cadre réglementaire est insuffisant, et dans ce cas, il faut le réformer. Soit les joueurs sont fautifs, et dans ce cas, il faut prendre des sanctions exemplaires pour que cela ne se reproduise pas, et il veut le faire savoir. En tout cas, une enquête judiciaire est en cours. Mais Philippe Chauvin ne veut pas attendre ses conclusions pour sensibiliser le monde du rugby. Il produit lui-même un rapport d'analyse de la vidéo, dans lequel il entend démontrer la responsabilité des 2 joueurs bordelais. Alors méticuleusement, image par image, seconde par seconde, il calcule la vitesse des 2 plaqueurs ou encore leur énergie cinétique. Puis il sollicite les instances dirigeantes, il le répète, son intention n'est pas de nuire à l'image du rugby, un sport qu'il aime. Non, lui ce qu'il veut, c'est que les responsabilités soient établies, pour son fils bien sûr, mais aussi pour tous les autres. Et c'est devenu le combat de sa vie. En janvier, il multiplie les réunions. Avec la ministre des Sports, Roxana Maracineau, avec le président de la Fédération, Bernard Laporte, avec les dirigeants du Stade français. C'est le temps des belles paroles et des belles intentions. D'ailleurs, la Fédération se montre réactive. Le 20 décembre, elle organise une réunion exceptionnelle avec les représentants de World Rugby, l'instance dirigeante de l'Ovalie au niveau mondial, et elle annonce une série de mesures. Comme ici, dans le journal du soir de France Inter, le 21 décembre.
Les instances dirigeantes du rugby français veulent réformer la catégorie espoir. Aujourd'hui, celle-ci est composée de joueurs âgés de 18 à 23 ans. Y cohabitent des joueurs professionnels ou très proches de le devenir, et d'autres plus jeunes et moins expérimentés. La Fédération et la Ligue veulent donc réduire la tranche d'âge des espoirs, une initiative saluée par le président de Proval, le syndicat des joueurs, Robin Tchaliwachu.
C'est une très bonne décision. Moi, je peux vous dire, pour être encore joueur il y a encore quelques temps, c'est vrai que quand tu es en équipe pro et que tu descends jouer contre un gamin qui a 18 ans, la disparité, elle est là. Ça a du sens.
Autre piste explorée, une réforme des plaquages que le président de la fédération, Bernard Laporte, a évoquée hier avec les dirigeants de World Rugby, la fédération internationale.
La règle, c'est World Rugby qui la détient. C'est pas la fédération française de rugby. Donc nous, on fait des propositions. Dans le détail, c'est baisser la zone de plaquage au niveau de la taille, interdire le plaquage à deux, interdire le plaquage tête contre tête. Fait, voilà des propositions techniques.
Et au fil des mois, des réformes sont actées. Désormais, il est donc interdit de plaquer à deux. Interdit également de plaquer au-dessus de la taille, au niveau amateur tout du moins. Quant aux espoirs, la limite d'âge est abaissée à 21 ans. C'est toujours trop élevé pour nombre d'observateurs qui rappellent que, jusqu'en 2014, il existait deux catégories. Les 18-20 ans d'un côté, on les appelait les Rachel, et les 21-23 ans de l'autre, les espoirs. C'est mieux que rien. Il faut dire qu'il y a urgence. En janvier 2019, un nouveau décès endeuille le monde du rugby. Celui de Nathan Soyeux. Ce jeune étudiant de 23 ans ne s'est jamais relevé d'un choc subi lors d'un match amateur un mois et demi plus tôt. La fédération s'engage en outre à accompagner les clubs pour mener un travail de sensibilisation auprès des joueurs. Sur Europe 1 en février, Bernard Laporte ne mâche pas ses mots pour dénoncer certains comportements.
La santé des joueurs, elle est prioritaire. Et moi je trouve qu'il y a des joueurs qui se comportent mal sur les terrains. Voilà. Ceux qui viennent pour faire mal, plaque en haut, avec les épaules, etc., etc. Moi, je suis pour les exclure et les punir grandement. Je trouve qu'on est trop laxiste en termes de sanctions avec des joueurs qui vont sur un terrain pour faire mal. Et notamment sur des plaquages hauts, où c'est pas des plaquages. Quand on plaque, il faut fermer avec les bras. Aujourd'hui, je vois des joueurs qui viennent et qui, à l'image d'un boxeur, avec l'épaule, vont agresser le haut du corps de l'adversaire. Et tout ça est dangereux.
C'est bien dit, mais Philippe Chauvin en veut plus. Il faut, répète-t-il, que les responsables de la mort de son fils soient sanctionnés. Alors, il multiplie les demandes d'enquête à tous les niveaux. Mais il sent bien qu'il dérange, que certains voudraient passer à autre chose. La fédération lui promet une analyse de la vidéo en complément de la sienne. Mais elle traîne. Pourtant, elle est essentielle. La justice en a besoin pour se prononcer. De son côté, le ministère s'engage à mener une enquête disciplinaire. Sans suite. Même les dirigeants du Stade français se font de plus en plus discrets. N'empêche, il y a quand même un malaise dans la famille rugby. Ludovic Ninet, qui a enquêté sur cette affaire pour Le Parisien, parle, lui, d'une véritable omerta. À l'été 2019, les désillusions s'enchaînent pour les Chauvins. En juin, ils apprennent que l'affaire est classée sans suite à l'issue de l'enquête préliminaire. Comme annoncé, Philippe fait donc savoir qu'il va déposer une plainte contre X pour homicide involontaire. Mais il comprend très vite qu'il sera seul dans ce combat. Quant à la Fédération française de rugby, elle indique qu'elle n'a constaté aucune faute. Sous-entendu, elle ne soutient pas la démarche du père de Nicolas. Et voici ce qu'elle affirme dans un communiqué.
L'action litigieuse dans laquelle Nicolas fut impliqué n'a été sanctionnée d'aucun carton sur le terrain, ni n'a fait l'objet de rapports ultérieurs pour jeu déloyal. Le président a immédiatement diligenté une expertise interne afin de collecter des éléments motivant une saisine de la commission de discipline. Ces éléments n'ont pas été probatoires.
Quid de l'analyse circonstanciée de la vidéo promise par la fédération en début d'année ? Philippe l'attend toujours et il l'attendra longtemps, nous y reviendrons. Mais la Fédé n'est pas la seule à le lâcher. Le Stade français également se dégonfle. En septembre, une réunion à haut lieu est organisée pour décider de la marche à suivre. Finalement, le club décide qu'il ne souhaite pas se porter partie civile. Pour les Chauvins, le coup est rude. Ulcéré par cette décision, l'un des dirigeants du club, Jean-Christophe Berlin, qui est alors le coordinateur du pôle santé et l'un des membres des comités directeurs de l'Association du Stade français, démissionne. Dans son enquête vidéo, Le Parisien livre sa version de la fameuse réunion. Elle est lue par un journaliste.
Le président Roger Boutonnet a ouvert la séance en menaçant de démissionner si on allait dans le sens de la famille Chauvin. Pascal Papé, le vice-président, ne voulait pas non plus d'un procès. Je ne connaissais pas Philippe Chauvin, mais je considère qu'il était bien d'écouter ce qu'il avait à dire. Pas pour faire du tort au club de Bordeaux ni aux joueurs d'en face, mais pour que cette histoire ne soit pas enterrée, qu'on sache si ce n'était qu'un accident. Tout le monde a regardé ses pompes, il n'y a même pas eu de vote.
Dans les médias, Berlin explique que la fédération a peur des conséquences d'une telle démarche. Elle craint d'ouvrir la boîte de Pandore et de voir les procès se multiplier. Berlin livre aussi les résultats d'une étude qu'il a menée au sein du club. Selon lui, 3% des joueurs du Stade français sont victimes de commotions cérébrales chaque week-end. Soit, rapporté au nombre de joueurs de rugby en France, un potentiel de 5000 commotions chaque semaine. Berlin affirme enfin qu'on essaie de le faire taire, qu'il dérange. Il dénonce le déni du rugby français. Philippe Chauvin, de son côté, se sent abandonné. Il n'a plus de nouvelles de la fédération, ni du ministère. Mais il est hors de question pour lui d'abdiquer. En novembre 2019, près d'un an après la mort de son fils, il finit par déposer plainte. Il s'en explique dans la matinale de France Inter, 4 ans plus tard.
Je pensais avoir été entendu, quand vous avez entendu le témoignage de Bernard Laporte tout à l'heure, et je m'étais dit, ça va, ils vont prendre les choses en main, ils vont faire le travail, et ça va bien se passer. Et moi, j'allais faire mon travail, ma part de travail, qui consistait à déposer une plainte, parce que si on ne responsabilise pas les joueurs personnellement, on a peu de chances de les protéger d'eux-mêmes, et aussi de leurs entraîneurs. Parce que si votre entraîneur vous dit « Non, mais vous me les sortez, il faut le blesser » ou un truc comme ça, moi, en tant que joueur, j'ai la capacité de dire « Attention, là, je suis responsable pénalement, je ne ferai pas ça. »
Hélas, l'enquête judiciaire ne donne rien. Un non-lieu est prononcé le 16 janvier 2025. Et c'est une nouvelle désillusion pour les Chauvins qui font tout de même appel. Il faut dire que le monde du rugby n'a pas vraiment aidé la justice. Lors de leur audition, les représentants de l'arbitrage expliquent aux magistrats qu'ils n'ont pas vu de faute flagrante. Surtout, la fédération n'a toujours pas remis son analyse de la vidéo à la justice, et pas plus à Philippe, qui la réclame sans cesse. Une expertise qui aurait pourtant bien aidé le juge. Philippe pensait avoir un allié de taille à la tête de la fédé en la personne de Florian Grill. Quand il était opposant à Laporte, ce dernier s'était engagé à soutenir son combat. Mais depuis qu'il a pris la tête de l'institution, en juin 2023, il se fait beaucoup plus discret. Sous la pression de Philippe, il doit même reconnaître que la vidéo du match, la seule trace de l'accident, a été perdue. Oui, perdue. Finalement, une expertise est réalisée par la fédération en mars 2025, soit plus de 6 ans après les faits. Elle est présentée à la famille Chauvin en avril, quelques semaines après la diffusion de la vidéo par Le Parisien. Heureux hasard, n'est-ce pas ? Ce rapport est ambigu sur bien des points. Mais il confirme que les deux plaquages simultanés étaient dangereux. Et il conclut qu'aujourd'hui, le numéro 7 de l'Union Bordeaux-Bègles écoperait d'un carton jaune et le numéro 5 d'un carton rouge. Maigre consolation pour la famille de Nicolas. Pour son père, seules des interdictions de jouer à vie pourraient faire changer les mentalités. Or, dans cette affaire, on est loin du compte. Les deux joueurs de Bègles-Bordeaux continuent à pratiquer le rugby au niveau professionnel. L'année dernière, le premier jouait encore à Nice, en Pro D2, le deuxième échelon de l'élite, et l'autre à Tyros, en National 1, le troisième échelon. Quant à l'arbitre, Adrien Marbeau, une figure du top 14 aujourd'hui, il continue à dire qu'il n'a vu aucun acte répréhensible ce jour-là.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, drame dans le rugby. Nicolas Chauvin, la mort au bout du terrain. Notre invité, Philippe Chauvin, le père de Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous battez depuis des années pour rendre justice à votre fils, mais aussi pour faire en sorte que l'on ne puisse plus mourir sur un terrain de rugby. L'évocation par ce récit de la mort de votre fils n'a pas été trop douloureuse ?
C'est forcément émouvant, mais c'est d'abord et avant tout le souvenir de Nicolas. Et moi, le souvenir de Nicolas, c'est d'abord le sourire, c'est d'abord la vie, et c'est tout ce qui accompagne avant ce drame.
Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez encore à regarder un match à la télé ou à vous rendre dans un stade de rugby ?
J'ai longtemps continué, j'ai poursuivi presque pendant 5 ans à regarder les matchs, mais de plus en plus, ou de moins en moins en fait. C'est-à-dire que c'est difficile de regarder des matchs dans lesquels vous savez qu'il y a des dangers et que rien ne change. Et pour autant, vous entendez toujours des institutions dire « Non, non, mais on a tout fait, c'est beaucoup plus sûr et tout va bien se passer. » Donc moi, je n'attends pas le prochain drame. Donc là, aujourd'hui, je suis un petit peu maintenant en retrait de ce sport.
Alors, il y a 2 ans, vous avez publié un livre aux éditions du Rocher dans lequel vous racontez l'accident qui a tué votre fils et votre combat qui a suivi. Et ce livre, vous l'avez intitulé « Rugby, mourir fait partie du jeu ». C'est terrible comme titre, qu'entendez-vous par là ?
C'est terrible, surtout quand vous aimez le rugby. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est le constat et la conclusion, finalement, de cette longue épopée de presque 7 années. Aucune réponse n'a été formulée, aucun dossier disciplinaire n'a été remis. La mort de Nicolas, on ne peut pas dire qu'on l'a ignorée, puisqu'elle a été extrêmement médiatisée. Des images existent. On a tout pour décider. Et pourtant, il n'y a aucune sanction. Et pourtant, il n'y a aucun responsable. Donc, la conclusion est évidente. Mourir fait vraiment partie du jeu.
Quelque chose qu'on doit intégrer, en fait.
Bah, si vous êtes
pas qu'on doit, qu'on a le droit de ne pas intégrer, justement, mais que l'institution nous invite à intégrer.
Alors, c'est beaucoup plus hypocrite que ça. C'est-à-dire que l'institution fait tout dans sa communication, dans son racolage pour recruter des nouveaux rugbyman, pour dire que le rugby, c'est l'école de la vie, c'est les copains, c'est tout ça. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est dites la vérité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de garantir la sécurité des joueurs. Et aujourd'hui, lorsqu'il se passe un accident, vous ne faites pas le travail nécessaire pour analyser les circonstances, les causes et mettre en place des actions correctives au bon niveau.
D'ailleurs, il y a eu donc 3 morts sur un terrain, dont celle de votre fils. 4, si l'on compte Nathan Soyeux, qui s'est éteint, lui, en janvier 2019, après un choc en novembre 2018. Est-ce qu'il y a eu d'autres accidents mortels depuis ?
Vous en avez en général un par an, minimum.
Un par an minimum.
Et vous avez, il faut avoir les accidents mortels et les accidents très graves qui conduisent à des tétraplégies ou à des paraplégies. C'est d'une douleur, d'une souffrance incroyable pour la personne et la famille. Et vous en avez eu un cette année. Ça s'est passé en avril, si je me souviens bien. Il y a un jeune de 15 ans et demi qui est mort. Et tout ça, en fait, est annoncé, énoncé, souvent par un communiqué qui dit, voilà, un arrêt cardiaque, un jeune joueur est mort d'un arrêt cardiaque. Alors, quand on connaît l'histoire de Nicolas et la manière dont je le raconte, puisque on a aussi eu ce communiqué-là, arrêt cardiaque, alors qu'en fait, c'était un arrachement de 2 vertèbres cervicales. Donc, en fait, on habille l'histoire, on la rend présentable, on crée une cérémonie autour pour qu'il y ait de la compassion, pour qu'il y ait de l'émotion. En fait, on fait presque une publicité sur un événement, une tragédie, pour se dire, bah, voyez, on est quand même beaucoup mieux que les autres parce que nous, on sait pleurer ensemble. Je suis désolé, moi, c'est ce que j'ai déjà dit à Florian Grill, j'ai pas besoin de ça. Les familles n'ont pas besoin de ça. Les familles, elles veulent juste une seule chose, la vérité. Et ceux qui aiment ce sport voudraient que ça ne se reproduise plus. Simplement.
Et vous dites souvent que votre but n'est pas de nuire à l'image du rugby parce qu'on vous l'a beaucoup reproché.
Non, mais on vous le fait comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tout le monde va vous dire que vous êtes vraiment admirable et que tout est formidable. Mais quand vous posez des questions et quand vous demandez des réponses, en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et vous avez même des personnes, moi, on m'a appelé après un article dans le journal L'Équipe, un ancien sélectionneur de l'équipe de France, pour me dire, écoute, ce serait bien que tu ne dises pas trop ça, parce que tu comprends, les familles et les mamans ne vont plus inscrire leurs enfants dans les écoles de rugby. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut pas témoigner de la brutalité, de la violence, de la dangerosité. On ne veut pas renverser la table pour que les comportements évoluent, pour que le recul soit là. Non, on préfère se taire et on préfère continuer à faire sa publicité pour avoir du nombre et avoir une meilleure exposition médiatique et donc plus de revenus.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que l'arbitre siffle plus de fautes qu'avant, parce que certains comportements ne sont plus admis, parce que dangereux ?
Non, je suis désolé, ma réponse elle est directe, immédiate. Je me suis battu pour qu'il y ait la règle 9 alinéa 11 sur les maillots de rugby, et notamment sur la manche des arbitres. Donc cette règle dit un joueur ne doit rien tenter qui soit dangereux ou imprudent pour autrui.
Oui.
Ça, c'est l'esprit rugby. On s'amuse, mais dans la limite du règlement et dans la limite de l'engagement. Et les arbitres ont ça sur leur manche. Et quand vous entendez un arbitre en top 14, et je l'ai entendu plusieurs fois l'année dernière, dire « il y a un choc à la tête, mais ça n'est pas dangereux, donc je ne le siffle pas », c'est juste impossible. Le règlement interdit les chocs à la tête, et dire à mon fils que ça n'est pas dangereux, c'est remettre en cause sa mort et les raisons de sa mort. Mmh. Donc ça, je ne peux plus l'entendre.
Vous avez porté plainte devant la justice en novembre 2019. Ce n'est pas courant de la solliciter dans le sport. Qu'espériez-vous à l'époque ?
Bah, en fait, on ne peut pas confier, entre guillemets, le changement à une institution, et je pense que j'ai eu raison de le faire, puisque comme vous l'avez très justement dit dans votre récit, il n'y a pas eu de dépôt d'enquête ou de commission de discipline. Rendez-vous compte, hein. Mais j'ai porté plainte parce que j'estime que moi, en tant que famille, j'ai ma responsabilité. Si je ne m'engage pas dans ce combat, si je ne dis pas aux autres joueurs « Attention, nous, famille de victimes, on peut vous poursuivre parce que vous avez une responsabilité pénale », à ce moment-là, le message, il n'est pas clair. Donc, j'aurais aimé que ce soit l'institution qui le fasse. J'aurais aimé que ce soit la Fédération Française de Rugby qui se mette à mes côtés et qui porte plainte ou que le Stade Français le fasse. Ils ont beaucoup gesticulé au début et puis à la fin, il n'y avait plus personne.
Alors, je reviens à la justice. Donc, un non-lieu a été décidé en janvier dernier, après votre plainte. Vous avez fait appel. Qu'est-ce qui vous fait penser que la décision pourrait être différente cette fois ? Est-ce qu'il y a une évolution ?
Alors, il y a une évolution majeure. Comme vous l'avez très justement dit, la FFR n'a jamais voulu contribuer avec un expert ou une expertise ou un arbitre aux demandes du juge d'instruction. Puisque je les voyais passer, je suis partie civile. Donc, absence d'expertise, le juge est tout seul. C'est pas son jeu, c'est pas son rôle de se substituer, entre guillemets, à ce que représente l'arbitrage du rugby français ou rugby mondial. Donc, il a pris sa décision sur la base de ce qu'il connaissait. Comme vous savez que le doute profite toujours à l'accusé, eh bien, dans ce cas-là, il prononce un non-lieu. Ce qui s'est passé depuis, c'est la remise de ce rapport de la FFR. Bien évidemment, c'est toujours après la décision de non-lieu. C'est tellement plus pratique. Et c'est aussi parce qu'il y a eu la pression médiatique avec le journal Le Parisien qui a sorti les images et personne ne peut rester insensible. Elles ont été vues plusieurs millions de fois. Ouais. Donc du coup, ça a créé un émoi et l'obligation de répondre. Et donc on a ce rapport qui dit, après de nombreuses circonvolutions, la même chose que moi. Il y a deux joueurs qui ont commis deux plaquages à la tête qui sont éminemment dangereux. Donc ce sont des fautes. Enfin.
France Inter. Sensible.
Au bout du compte, Philippe Chauvin, que dit ce fameux rapport de la Fédération française du rugby, délivré, on le rappelle, après le non-lieu prononcé par le juge ?
Il traduit en fait une interprétation du règlement en expliquant que, à l'époque, on n'aurait peut-être pas pu voir la faute et on ne l'aurait probablement pas vu parce qu'on ne formait pas suffisamment bien les arbitres. Et puis en 2023, on aurait vu manifestement, parce qu'on est beaucoup on est bien meilleur à ce moment-là, on aurait vu manifestement qu'il y avait deux fautes inacceptables et que, voilà, c'était juste insupportable. Mais on m'assure aujourd'hui que ça ne se reproduirait plus jamais, puisque maintenant on est extrêmement bien formé. Mais c'est extrêmement perturbant parce que, en fait, on a le même résultat que ce que j'ai produit le 4 janvier 2019, que j'ai partagé avec Bernard Laporte. Et d'ailleurs, une semaine plus tard, il passe sur une radio et vous avez passé le reportage pour dire « c'est inadmissible et des gens se comportent mal ». Il n'avait pas d'analyse, il n'avait pas d'enquête. Il m'a dit « on m'a dit au téléphone ». Et partout, vous allez lire « on a fait une enquête ». Quand je l'ai demandé à Florian Grill, il n'y a jamais eu une enquête. Il n'y a jamais eu de travail.
Mais parce que justement, il y aurait une omerta. Ludovic Ninet, le journaliste du Parisien, dénonce cette omerta. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle le Stade français qui vous soutenait au début, bah, vous a lâché.
Exactement. En fait, on a un entre-soi, on a une petite communauté qui vit bien sur le rugby, qui s'entraide et qui ne veut surtout pas de vagues. Donc en fait, le Stade français, à un moment donné, a préféré lâcher en race campagne une famille de victimes, même s'ils ont été très prévenants pendant la phase de deuil. Hein, et ça, je les en remercierai toujours beaucoup. Mais franchement, c'est pas ce qu'on attend.
Alors l'autre grand absent de cette affaire, c'est le ministère des Sports. Aux abonnés absents, quasiment, non ?
Le ministère des Sports, c'est le gentil organisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la responsabilité de la sécurité, puisqu'ils donnent une délégation de service public à une fédération qui est agréée, donc la Fédération française de rugby. Et lorsqu'il se passe des choses, ils sont en incapacité de challenger la fédération ou de leur demander de rendre des comptes. Rendez-vous compte que dans la réunion qu'on a eue le 17 avril, on a entendu « non, on n'a pas fait l'enquête parce qu'on n'a pas voulu ».
Carrément.
Le DTN, Olivier Liévremont, nous dit ça, franco. Personne ne réagit dans la salle. Moi, je réagis, bien évidemment. Je dis, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Oui, mais on m'a dit de pas le faire. Et on ne sait pas pourquoi. On apprend que la vidéo a été détruite.
Oui, on le disait, effectivement.
Pour quelle raison? Ah, on ne voulait pas voir la vidéo d'un gamin mort dans les...
Pas de voyeurisme, quoi. On disait pas de voyeurisme.
Voilà. Non, mais soyons sérieux. En fait, on n'en est pas là. Quand vous regardez la vidéo d'un accident, vous le regardez avec l'œil de l'expert. Vous regardez dans celui qui ne veut pas que ça recommence. Vous ne le regardez pas en disant « voilà, il est mort celui-là ». Non.
Alors, des mesures ont été prises à la fois par la Fédération française et la Fédération mondiale, World Rugby, notamment l'interdiction du plaquage à deux, l'abaissement du plaquage en dessous de la taille chez les amateurs, la réforme du championnat espoir, c'est suffisant selon vous ?
Toutes les mesures qui sont prises pour la sécurité des joueurs sont bonnes. Maintenant, ne nous trompons pas. On a des mesures qui correspondent à d'autres symptômes. Là, Nicolas, il ne jouait pas en amateur. Donc en fait, on est dans une situation où on veut nous faire croire qu'on a trouvé des solutions qui traitaient un problème qui n'a pas été analysé, qui n'a pas été compris. Ou alors, on a bien compris le problème, mais on ne veut surtout pas mettre en avant les solutions.
Est-ce qu'il faudrait radier à vie, par exemple, les joueurs trop violents ?
Bah, c'est ce que dit Bernard Laporte, non ? En février 2019.
Ouais, c'est vrai.
Et pourtant, pas de commission
effet.
De discipline,
effet, oui.
Pas d'effet. Et on me dit après, non, mais il ne s'est rien passé, circulaire, rien à voir. Sachez simplement qu'ils ont dit, il a fait faire officiellement qu'il n'y avait pas de faute, après que le juge, la première enquête préliminaire, ait donné son résultat. Donc là, ils se sont dit, on est dédouanés par la justice, donc du coup, on n'a plus rien à faire, plus de responsabilité.
Et les deux agresseurs de votre fils jouent encore ?
Oui, bien sûr. Ils jouent encore, mais le pire, c'est de ces gens-là. Ils n'ont même pas conscience qu'ils ont commis une faute et n'ont jamais exprimé le quelconque remords à notre rencontre. Donc en fait, je pense qu'ils ne sont même pas, entre guillemets, au courant. Ils le sont un peu par la force des choses, parce que maintenant qu'ils ont été convoqués par la justice, ils savent qu'on parle d'eux.
Ouais.
Mais c'est un peu tard.
Dernière chose, l'arbitre du match mériterait-il une sanction selon vous ? Peut-être qu'il arbitre encore, non ? Je ne sais pas.
Bah, il a eu une promotion, c'est beaucoup
en
mieux.
Plus.
Oui, il est passé maintenant arbitre vedette du top 14, donc c'est tellement mieux. Il adore regarder les vidéos pour voir les fautes de hors-jeu ou de passe en avant. Par contre, pour les plaquages dangereux, c'est vrai que là-dessus, ça ne le concerne pas beaucoup. Et il continue de nier que Nicolas avait effectivement subi un plaquage dangereux. Ce qui est terrifiant, parce que c'est un arbitre du top 14. Et là, en disant ça, il vient à l'encontre de la commission qui a fait l'analyse sur la base de volontariat, hein, parce qu'on n'a pas eu les grandes vedettes, hein, arbitres et compagnie. On a eu des volontaires de la fédération pour faire cette analyse.
Bien, là, je rappelle que le top 14, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est le championnat de France de première division, hein, c'est l'élite nationale.
C'est ça, et presque mondiale, parce que c'est là où on voit le plus grand nombre de joueurs de rugby.
Bien sûr. En tout cas, merci Philippe Chauvin pour votre témoignage. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Nicolas Chauvin, La mort au bout du terrain, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamins.